Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast avec quelqu'un que je connais très bien, peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous aussi. J'accueille Léa, qui est la fondatrice de l'association AIDA. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou YouTube, vous avez forcément déjà entendu parler de cet asso, puisque ça fait maintenant 3 ans que je m'engage avec AIDA. Mais du coup, AIDA c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas? C'est en gros une association qui soutient les jeunes touchés par un cancer et dont le quotidien a besoin d'un petit coup de boost. Chaque année, c'est 2200 jeunes malades qui sont aidés par AIDA, ses bénévoles et ses donateurs, et en 8 ans, l'asso a reçu 16 prix pour récompenser les fruits de son travail. Alors si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de découvrir comment est-ce que Léa a fondé cette association à seulement 15 ans, et oui, ben je vous souhaite à tous une très bonne écoute et c'est parti. Bienvenue Léa.
Salut Zoé.
Est-ce que ça va?
Ben ça va et toi?
Ça va très bien. Vous devez entendre à notre voix, on est un peu enrhumés.
Oui, désolée.
C'est Noël, c'est la fin d'année, donc faites abstraction de ça. Et c'est parti pour le podcast. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire qui tu es en fait?
Ouais, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation Zoé. Je suis trop contente de partager ce moment avec toi et on admire tous beaucoup ce que tu fais, donc c'est... C'est trop cool de pouvoir participer à ton podcast. Donc moi, je m'appelle Léa Moukanas. J'ai fondé, quand j'avais 15 ans, il y a 9 ans maintenant, l'association AIDA, qui accompagne les jeunes entre 12 et 25 ans qui rencontrent la maladie. Donc ils sont hospitalisés dans des services de cancérologie un peu partout en France. Et la particularité d'AIDA, c'est qu'on l'a monté quand on avait 15 ans, mais que cet ADN du départ, il est resté. Et donc aujourd'hui, on a plein de jeunes partout en France qui s'engagent avec nous pour aller rendre visite aux jeunes dans les hôpitaux, accompagner les jeunes aussi quand ils sortent de traitement, proposer plein d'actions un peu partout en France, dans leurs établissements scolaires aussi. Et c'est vraiment un mouvement de jeunes qui s'engagent pour la cause, quoi.
Ouais, en fait, c'est ça la particularité, c'est que c'est des jeunes. J'ai regardé, la moyenne d'âge, c'est 19 ans, c'est
ouais,
ça de...
c'est ça, exactement.
Ouais, donc c'est rare pour une association que ça soit aussi jeune.
En fait, je pense que ça a démarré avec un constat qui est que quand on avait 15 ans, on avait vraiment envie de s'engager dans le monde associatif. Mais en fait, on s'est fait recaler de toutes les associations dans lesquelles on a candidaté parce qu'on avait moins de 18 ans et que c'était hyper dur de pouvoir trouver une structure qui nous accueillait en ayant moins de 18 ans. Et je sais que c'était un truc dont on avait déjà parlé ensemble, mais c'est quand même hyper galère de trouver quelque chose qui soit un peu à la carte aussi. On n'est pas forcément dispo toutes les semaines au même moment, mais en même temps, on a envie de pouvoir aider. Et c'est vraiment ce qu'on a créé avec AIDA, de se dire que en fait, t'es lycéen, t'es étudiant, t'es pas forcément dispo toutes les semaines, mais il va y avoir du temps dans le mois que tu vas vouloir donner à AIDA et ce sera possible.
Et pourquoi justement t'as décidé de fonder AIDA? Comment est-ce que cette idée était venue et pourquoi?
Alors je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose de concret dans une asso. Je pense que je savais juste pas c'était quoi le monde associatif. Moi je viens d'une famille libanaise. Le principe d'un Libanais, c'est qu'il y en a toujours un autre dans la salle, donc il y en a forcément qui nous écoutent maintenant. Mais je viens d'une famille libanaise où les valeurs de solidarité, c'est assez important. Et je pense que j'ai un peu grandi dans ça. Et puis après, AIDA, c'est le prénom de ma grand-mère, qui a eu une leucémie, donc un cancer du sang, quand j'avais 15 ans. Et je me suis rendu compte, en fait, à l'hôpital, qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle et qui étaient hospitalisés toute la journée dans des services, soit avec des tout-petits, soit avec des personnes beaucoup plus âgées qu'eux. Et ça m'a beaucoup marqué de me dire que pour les jeunes, il n'y avait pas grand-chose qui existait et qu'il n'y avait pas forcément d'accompagnement qui pouvait exister. Et donc, avec mes potes de seconde, on s'est dit à cette époque-là, on a envie de faire quelque chose, on a envie de donner notre temps. Comme on s'est fait recal d'assaut, on a créé la nôtre.
Et ça a été dur à 15 ans, justement, de créer ton assaut. Comment tu as fait pour de là avoir l'idée et à le faire et à être pris au sérieux et à... Comment ça s'est passé, justement?
Ça a été... Tout un processus. Déjà, au départ, je pense qu'on n'assumait pas trop le fait d'avoir 15 ans. Du coup, on essayait de paraître beaucoup plus vieux. Enfin, on se maquillait beaucoup. moi, je me rappelle, je prenais les fringues de ma mère pour que les gens pensent que j'étais beaucoup plus âgée. Et en fait, on le voyait plutôt comme un handicap parce que les hôpitaux, en fait, nous disaient revenez quand. Si la santé ça vous intéresse, faites médecine. Et puis on en reparle plus tard, quoi. Et du coup, c'est vrai que au début, c'était vraiment compliqué d'assumer le fait qu'on était jeune. Parce qu'en fait, on s'est juste engagé spontanément. On n'a jamais fait exprès, en fait, d'être un mouvement de jeunes au début, ni un engagement, ni une asso de jeunes. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a recherché. Mais il se trouve que comme on était tous copains et en seconde, ça a démarré comme ça. Et puis, en fait, après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on apportait vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on avait des idées pour accompagner les jeunes, pour notre système de santé qui était un peu décalé par rapport aux idées qui existent. Par exemple, on a créé un programme pour les jeunes qui sortent de traitement qui s'appelle Highway to Health et dont on parlera peut-être après. C'est un programme où on a emmené 200 jeunes en dehors de l'hôpital pendant 4 jours. C'était une idée qui était complètement à côté et nouvelle par rapport à ce qui se faisait dans l'accompagnement à cette époque-là. Et en fait, graduellement, on s'est rendu compte que notre âge, ça pouvait être une force, ça pouvait être quelque chose qui allait apporter beaucoup d'innocence et beaucoup de fraîcheur à cet écosystème de la santé qui en a besoin.
Et t'as fait ça du coup tout en étant au lycée et à côté de tes études, ça n'a pas été dur justement de dédier ton temps à ça, mais en même temps d'être partagé dans le... Comment tu t'es situé par rapport à ça ?
En fait, je pense qu'au lycée et pendant mes études, après j'ai fait Sciences Po, je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que je pense que quand t'as la tête dans un truc... Enfin, je vois toi, tout ce qui te passionne. Je veux dire, quand je te disais hier, c'est ouf ce que tu fais, et voilà, mais t'avais pas l'air de te rendre compte que c'était ouf ce que
quand
tu faisais.
Quand t'as la tête dans le truc, tu te rends pas compte, quoi.
Voilà, et en fait, moi, j'avais pas vraiment la tête dans le truc. Je pense que je me suis rendu compte de tout ce qu'on avait fait quand j'ai eu mon diplôme en juin. Voilà, j'ai pris une photo avec mes parents, post-diplôme, etc. Et puis après, j'avais des journées où j'avais plus cours et où je faisais AIDA full-time. Et où, en fait, je me rendais compte que pour la première fois, j'avais des soirées, j'avais des week-ends. Enfin, tu vois, que je pouvais vivre quelque chose d'autre que bosser. Donc ça, ça a été un truc ouf.
C'est pratique.
C'était très cool. Et après, je pense que ce qui a été aussi dingue, c'est que très vite, j'ai pas été seule. C'est-à-dire que, en fait, et pas forcément mes potes, d'ailleurs, de seconde, mais vraiment, il y a plein de gens dans la promo avec qui ça résonnait beaucoup, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes... connu des gens qui avaient été malades, soit parce qu'eux-mêmes, ils s'étaient fait recal d'association, ils voulaient s'engager, et qui m'ont dit, moi, ça me touche ce que tu fais, j'ai envie de t'aider. Et en fait, très vite, j'ai pas du tout été seule. Et très vite, ça a été un truc collectif. Et ça, c'est super cool d'avoir un projet comme AIDA et que ce soit quelque chose de collectif, parce qu'en fait, c'est pas juste toi qui le crée, mais c'est la somme de nous tous et de tout ce qu'on peut apporter à AIDA qui en fait ce que c'est aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est trop cool. Enfin, il n'y a rien de plus génial que quand tu vois des gens s'approprier ce qui était ton projet à la base, mais ce qui devient le leur. Et tu vois, toi, quand t'en parles sur tes réseaux, quand tu nous aides à recruter des bénévoles à Nantes, à Angers, et qu'il y a plein de jeunes qui s'inscrivent et qui disent c'est l'asso de Zoé, on s'engage pour rejoindre l'asso de Zoé, je trouve ça trop cool. Parce qu'en fait, chacun en fait son engagement. Et on a besoin de la somme de tous ces engagements-là pour faire avancer la cause.
Ouais, c'est ça. T'as jamais été seule, en fait. T'as eu l'idée déjà à plusieurs. Et après, au fur et à mesure des années, tu touchais des personnes différentes en fonction de ceux qui étaient sur ton parcours.
Ouais.
Et concrètement, pour créer une asso, en plus, parce que moi, ça m'intrigue. À 15 ans, moi, je jouais au Pet Shop. Je sais pas ce que je faisais. Je filmais des trucs avec la webcam de mon ordi.
Alors moi aussi, voilà. Si ça peut te rassurer. Ça n'empêche pas.
Mais comment est-ce que t'as eu, la maturité? Enfin, comment ça se crée une asso? Est-ce que tu dois aller voir, le bureau des assos et dire « je veux créer mon asso ». Comment ça se passe en vrai?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'année avant que j'ai créé AIDA, toute la procédure pour créer une association s'est passée en ligne.
Ah, okay.
Donc déjà, tout se fait en ligne aujourd'hui. Et s'il y en a parmi vous qui ont envie de créer une association, ou si toi, Zoé, t'as envie de monter ton asso, en fait, c'est assez simple. Et, enfin, on va se dire les trucs cash, parce que je pense que l'idée, c'est de donner des outils et des clés.
C'est ça, ouais.
Mais en fait, il y a besoin de deux documents pour créer une association. Ce qu'on appelle un procès-verbal. Donc, en gros, c'est juste un papier qui dit qu'on s'est réuni à au moins deux personnes pour dire qu'on voulait créer une association et dire ce que voulait faire cette association. Et le deuxième document dont on a besoin, c'est des statuts. Donc, des statuts, c'est un document qui dit ce que fait l'association et c'est quoi les règles de fonctionnement de l'association et son objet, etc. Et moi, en fait, à cette époque-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Du coup, j'ai regardé des exemples sur Internet, j'ai téléchargé des exemples et j'ai juste modifié les trucs qui me semblaient intéressants de modifier Par exemple, ce que va faire exactement ton association, ou voilà. Et pendant les deux, trois premières années d'AIDA, c'était ces statuts que j'avais téléchargés d'Internet qui nous servaient de base. Après, tu peux les changer. Donc, quand AIDA a grandi, on les a changés. Il y a des avocats qui ont retravaillé dessus, etc. Mais à cette époque-là, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Internet. Moi, il y avait une petite douille parce que aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à cette époque-là, il fallait avoir 16 ans. Moi, je venais d'avoir 15 ans.
Ah, punaise.
Donc, c'était un peu galère. Donc, j'ai imiter la signature de ma mère pour
on l'a tous fait.
On l'a tous fait, donc pour faire croire que en fait j'étais ma mère, sauf que ma mère est avocate, du coup ça a été assez tendu la première année. mais aujourd'hui on est content parce que ce minimum d'âge, je crois qu'il n'existe plus, ou alors il a été abaissé à 11 ans. Mais en tout cas, on peut créer une association à 14-15 ans aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et donc ça c'est comment ça s'est fait concrètement. Et puis après, l'idée c'est qu'il y ait des gens qui te rejoignent. Donc moi, j'en ai parlé à mes meilleurs potes à cette époque-là. Et eux en ont parlé à leurs potes, qui en ont parlé à leurs potes. Et c'est vrai qu'assez vite, dans la promo, il y a plein de gens qui ont voulu s'engager. Comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils avaient été concernés. Aussi parce qu'on a vécu l'année de notre cinquième à notre quatrième, il y a une pote dans la promo qui est décédée.
Okay.
Et je pense que ça a été un truc hyper tabou, dont on n'a pas beaucoup parlé à l'école. Parce que c'était un peu celle dont on ne devait pas prononcer le nom à un moment, tu vois.
Ce qui est au final pire.
Ce qui est au final...
Parce que ça met encore plus à part, quoi. Et ouais. Ça pointe encore plus du doigt.
Bah, carrément. Et je pense que pour beaucoup qui étaient proches d'elle, je ne suis pas sûre qu'on en ait parlé autant que ce dont on aurait eu besoin. Et qu'il y avait eu un gros tabou autour de ça. Et je pense qu'on avait tous, très inconsciemment, mais on s'en est rendu compte très tard en parlant avec ses potes, que je pense que ça nous avait aussi motivés. Et ça avait fait qu'il y ait autant de personnes dans la promo qui ont envie de s'engager.
Et là, maintenant, aujourd'hui, mais combien de bénévoles, combien de personnes bossent avec AIDA ?
Alors aujourd'hui, on a chaque année 2000 bénévoles conformes à intervenir en milieu hospitalier, avec une super antenne qui vient de se créer à Angers.
À Angers ! Mes petits angevins, si vous m'écoutez, il y a une antenne, voilà.
Voilà, et on recrute à Angers à fond, donc si vous avez envie de nous rejoindre, on vous attend. Donc on forme 2000 bénévoles chaque année, on a engagé plusieurs dizaines de milliers de jeunes, à peu près 80 000 jeunes depuis la création d'AIDA, et on a 26 salariés qui travaillent aujourd'hui chez AIDA. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de salariés à un moment ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on accompagnait encore plus de patients chaque année et qu'en fait, il fallait professionnaliser les programmes qu'on proposait parce que c'est une responsabilité. Tu vois, quand tu as un médecin qui nous dit bah voilà, j'ai un jeune qui vient de sortir de traitement, j'aimerais bien vous l'envoyer sur un de vos programmes d'après-cancer, il faut que ton programme il soit à la hauteur du truc. Donc, on a recruté des salariés qui accompagnent les bénévoles à accompagner les patients, qui construisent aussi tous les programmes et qui les encadrent. Et puis, une partie des salariés qui vont lever des fonds aussi pour soutenir nos projets.
Maintenant, on va plus rentrer dans le vif de l'asso. Là, vous avez un peu l'histoire, comment ça s'est créé, où on est aujourd'hui. Mais concrètement, les missions, vous l'avez compris, c'est pour aider les jeunes qui sont touchés par un cancer, par plein de missions et d'activités différentes. Mais ça a été quoi les premières missions qui ont été mises en place ? Est-ce que directement, ça a été un succès ? Toi, qu'est-ce qui t'a marqué au début ?
Alors, la toute première mission, on en a trois aujourd'hui. Et en fait, elles se sont construites dans l'ordre. Notre première mission, qui a été la toute première qu'on a mise en place, c'était accompagner les jeunes à l'hôpital. Parce qu'en fait, c'est là où on s'est dit au début qu'il y avait un besoin, parce qu'on a imaginé, sans le vivre forcément, mais imaginé l'isolement que ça pouvait être. Et en se rendant compte aussi que pour une partie des jeunes, il y a des services et des unités qui sont dédiées. Dans des hôpitaux comme Saint-Louis, comme Curie, comme Gustave Roussy, il y a des unités qui sont dédiées aux jeunes.
Okay.
On appelle les unités adolescents jeunes adultes.
Donc t'es que entre jeunes
Ouais, ou t'es que entre jeunes.
Okay.
Mais dans plein d'autres endroits en France, des jeunes de 19 ans, ils peuvent être dans le même service que des personnes qui ont 60, 70 ans.
Mmh.
Et il n'y a pas forcément d'unité dédiée. Et parfois, on a plein de jeunes qui nous contactent aussi en disant je ne savais pas qu'il y avait des jeunes, d'autres jeunes que moi, qui vivaient la maladie. Donc il y a un isolement qui est très très fort. Et donc on s'est vraiment dit que c'était ça qu'on allait accompagner. Et donc pour cette première mission-là, on forme des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans à intervenir en milieu hospitalier. Donc ils ont une demi-journée de formation. Ensuite, ils échangent avec notre psy. Ils ont un accompagnement aussi par la psy tout au long de leur engagement. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des activités. Donc ça peut être, de l'art plastique, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre. Il y a même, je sais qu'à Paris, il y a des bénévoles qui ont lancé un programme où on révise le bac ensemble, au mois d'avril, de mai, de juin, pour pouvoir passer le bac ensemble. Il y a le même pour le bac de français. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'avant d'être malade, un jeune, ça reste un jeune. Et qu'en fait, au-delà de la maladie, on va aussi passer un moment entre jeunes, même si on est à l'hôpital. Mmh. Et en fait, de cette mission-là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres besoins. Qui n'étaient pas forcément accompagnés, et notamment l'après-maladie. C'est-à-dire que pour nous, au début, on se disait, en fait, quand tu tombes malade et qu'on te dit que c'est fini, c'est fini.
Ouais.
Et on s'est rendu compte que c'était un peu comme quand tu faisais une rando. C'est-à-dire que tu arrives à l'endroit où tu dois arriver pour ta rando, mais bon, il faut qu'on t'aide à rentrer chez toi après et à redescendre ce que tu as gravi. Quoi.
La vie a été bouleversée, quoi. Tu ne vois plus
totalement.
Les choses pareilles.
Totalement. Et donc, on a créé, et c'est notre deuxième mission, c'est aider les jeunes à se projeter après. Et aujourd'hui, je pense que c'est la mission qui nous occupe le plus.
Okay.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui existe pour les jeunes aujourd'hui. Donc, il a fallu vraiment créer tout à zéro. Et donc, notamment, on a créé Highway to Health, qui est une petite ref à ACDC, mais qui est un programme d'accompagnement sous forme d'un an. Donc, c'est des grands week-ends où tu as 200 jeunes qui viennent tout juste de sortir de traitement, qui se retrouvent et qui passent 4-5 jours ensemble avec une quarantaine d'activités qui sont proposées. Et l'idée, c'est à la fois, évidemment, d'avoir un sas quand tu sors des traitements, mais aussi de pouvoir mettre des mots, lever les tabous sur des sujets, tu vois, je sais pas, la sexualité, le rapport à ton corps, ta santé mentale, aussi après les traitements, qui sont des sujets hyper tabous, dont t'as pas tellement d'autres occasions de parler si tu rencontres pas des jeunes qui ont vécu la même chose que toi. Donc ça, c'est vraiment un gros programme qu'on a. On a été hyper marqués parce que on s'est rendu compte qu'un jeune sur cinq, donc c'est énorme, qui vient à ce programme-là, c'est la première fois qu'il rencontre un jeune qui a vécu la même chose.
Ah ouais.
Donc, t'as vraiment un truc de... c'est une révélation totale pour beaucoup. Et c'est vraiment un moment ouf où tu libères totalement la parole.
Parce que les... En général, ils sont à l'hôpital... Enfin, c'est plusieurs mois. C'est long, quoi. Donc, donc c'est important. Enfin, c'est fou qu'un jeune sur cinq ait pas vu de personne qui a la même maladie ou même de jeunes qui le considèrent aussi comme normal. Parce que je trouve que... Enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que dès que tu dis ouais, il ou elle a un cancer, il a un, t'es direct en mode oula, attention, il faut pas dire ça, il faut pas. C'est hyper tabou, alors que je trouve que à la limite, t'en parles normal et ça devient quelque chose de normal, de pas problématique, quoi. Et pour le jeune, c'est beaucoup plus simple après de se dire bon, voilà, j'ai vécu ça, je suis pas seule, il y a autre chose à côté, quoi.
Exactement, c'est exactement cette phrase que tu dis, je suis pas seule. Que nous disent les jeunes quand ils sortent de ce programme-là. Et je pense qu'il y a le fait d'en parler, de lever les tabous là-dessus. Et puis, il y a le fait aussi de se dire qu'un jeune, c'est pas un enfant, c'est pas un adulte. C'est cet âge entre deux qu'on vit. Toi et moi encore, tu vois. Moi, j'ai 24.
Ouais, 22.
Donc, 22, donc on a
déjà
encore
c'est
cet âge-là, tu vois. Et c'est compliqué, tu
mmh.
vois. C'est un âge où on se pose plein de questions. On sait pas trop ce qu'on veut faire après ou quand bien même on a déjà nos trucs, je pense que parfois on se sent au pied d'une montagne, on est genre « Ah, je fais pas assez !»
Ouais, je fais pas assez grande, je suis pas assez machin,
ouais, voilà,
c'est dur.
C'est hyper compliqué comme âge. Et en fait, je pense que quand tu tombes malade, t'es infantilisé.
Mm.
Du coup, tout de suite, tu vois, tu repasses dans un truc qui est plus de l'enfance, alors que en fait, t'as 19 ans et t'as pas du tout envie qu'on te traite comme un enfant. Et je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment leur dire « voilà, avant d'être malade, vous êtes jeune ». Nous, on est là pour faire en sorte que toutes les questions que vous vous posez quand vous êtes jeune et que tous les sujets auxquels vous faites face quand vous êtes jeune, ça puisse continuer à exister même si vous êtes malade. Et que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec ces deux premières missions. Quoi.
Et un jour, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose et là, tu t'es dit « Ok, je me sens vraiment utile et je... » Enfin, ça a été vraiment un peu la consécration de toutes ces années où t'as fait AIDA et construit tout ça.
En fait, la toute première visite que j'ai faite à l'hôpital... C'était il y a 8 ans.
Et quoi, 15 ans,
ouais,
c'est
ouais, j'avais 16 ans. On a mis un an avant de signer notre première convention de partenariat avec un hôpital. Donc je venais d'avoir 16 ans. C'était le 30 juin, je me rappelle. Et donc j'arrive à l'hôpital. Tout le monde faisait un peu comme moi parce qu'ils pensaient que je savais ce que je faisais alors que vraiment, j'avais aucune idée de là où j'emmenais tout le monde. Et on était beaucoup. Normalement, une visite à l'hôpital, t'es 2-3 dans les petits services. C'était 7-8 dans des gros services. Là, on était 25, donc vraiment, les professionnels de santé, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train d'accueillir dans cet hôpital ?
Une équipe de foot, quoi.
Une équipe de... Ouais, vraiment, c'est une équipe de foot et tous les remplaçants, quoi. Et en fait, on arrive dans la salle, on va chercher les jeunes dans leur chambre et tout, et il y avait vraiment un truc de méfiance des jeunes au départ, tu vois. En fait, j'ai pas envie qu'on prenne en pitié, j'ai pas envie d'une énième association qui vient de prendre en pitié, ça me saoule, c'est trop chiant. Et en fait, quand ils se sont rendus compte qu'on avait leur âge, il y a vraiment quelque chose dans leur regard qui a complètement changé. Et où ils se sont dit, en fait, voilà, c'est un moment où on va parler le même langage, où on va juste être entre nous. Et là, c'était assez marrant, t'as tous les codes de l'adolescence qui se sont recréés à l'hôpital, mais du coup, c'est parti en soirée.
Okay.
Et donc, il y avait de la musique, donc t'avais ceux qui étaient hyper à l'aise sur la piste de danse, t'avais ceux qui, au contraire, dont je fais partie, qui étaient sur le coin en mode fait qu'on ne vienne pas me chercher
je fais
pour aller
la
sur la piste, ouais, toi aussi.
C'est
donc, t'aurais été dans cette team.
Quand quelqu'un m'approche, je suis genre non, pitié, non.
Ne me touche pas.
Ah, c'est gênant.
J'ai pas envie.
Ah non, pas du tout. Laissez-moi au bar comme ça, accoudé, à parler, ça me va très bien. Mais danser, je regarde.
Bah, c'était exactement ça. Et il se trouve que ce soir-là, il y avait une autre jeune fille qui s'appelle Justine, qui était aussi accoudée sur le bar en mode « ne me faites pas danser sur la piste de danse ». Et en fait, Justine, quand elle s'est rendue compte que j'avais son âge, elle est venue me parler. On a passé la soirée ensemble. À un moment, elle m'a demandé de venir faire un quatre-mains dans sa chambre. Donc, j'ai demandé l'autorisation à l'hôpital de monter, parce que normalement, on devait vraiment rester en bas. Et donc, on est monté dans sa chambre et on a fait un quatre-mains au piano toute la soirée. Alors, elle jouait beaucoup mieux au piano que moi, donc elle s'est foutue de ma gueule toute la soirée. Mais en sortant, elle m'a dit merci, parce que pour la première fois depuis que je suis arrivée ici, je me suis sentie jeune et pas malade. Et en fait, c'était il y a 8 ans, et bien sûr, ça nous est arrivé plein de fois depuis, et c'est peut-être pas à formuler comme ça, mais on se rend compte que ça permet des rencontres qui sont incroyables. Mais c'est vraiment l'ADN de ce qu'on veut porter. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à être jeune malgré la maladie, quand on est à l'hôpital, quand on est après les traitements, continuer à avoir une vie amoureuse, continuer à te projeter, avoir des projets, parce que je pense que c'est ça aussi... Ça peut aussi être ça, le propre de notre âge. Prendre soin de ta santé mentale, avoir un mec, une meuf, continuer à avoir tes potes, passer ton permis de conduire. Enfin voilà, comment est-ce que tout ça peut exister même si tu es à l'hôpital ?
Et là, on parlait justement des patients, des jeunes, etc., qui ont un cancer. Mais vous accompagnez aussi les familles, les proches. Moi, je sais que je m'en souviens une fois, je crois que c'était un peu moins d'un an que j'avais rejoint l'association. Ouais. Et tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit « Zoé, on a... Emma, qui est la sœur d'un patient et tout, qui est fan de toi. Je ne sais plus pourquoi, elle était à Angers ou...
Hugo, son frère, avait été traité Nantes et Angers. Et en fait, je me rappelle très bien la première fois qu'ils nous ont contactés, parce qu'en fait, tu étais allée remettre les cadeaux.
Oui, à l'hôpital d'Angers.
Dont on parlera tout à l'heure. Mais pour notre opération Noël à l'hôpital, tu t'étais pris tous les cadeaux et tu étais allée les remettre à l'hôpital. Et en fait, Hugo était en traitement à ce moment-là et ils n'avaient pas pu te croiser. Et du coup, on avait reçu un message de sa maman qui nous avait remercié pour les cadeaux, qui nous avait annoncé que malheureusement, Hugo était décédé, mais que sa sœur Emma était hyper fan de toi et toujours d'ailleurs hyper fan de toi. Et donc, on s'était dit que ça pourrait être sympa d'organiser quelque chose, parce qu'en fait, je pense qu'on ne dit pas assez, mais c'est évidemment dur pour les jeunes, pour leurs parents. C'est aussi hyper dur pour les frères et sœurs, parce que tu as du mal à trouver ta place, tu veux pas tirer la couverture à toi parce que c'est ton frère ou ta sœur qui est malade, mais en même temps, toi aussi t'existes. Et donc, c'est pas évident. Et donc, on avait organisé une surprise.
C'était hyper drôle. T'étais au café avec elle, je crois, et moi, j'envoyais des messages à elle, j'étais genre, j'arrive dans 2 minutes, j'arrive dans 1 minute. Est-ce qu'elle est bien de dos à la rue et tout, parce qu'on voulait pas, elle était pas du tout au courant et tout. Et j'arrive, et je crois que je vais dans le resto. Je prends un plateau en mode avec des cafés et tout, avec votre commande, et j'arrive en mode « Bonjour, vous avez commandé ça et tout ?» Et voir sa tête, elle ne s'attendait pas du tout, ça lui a fait trop plaisir. Franchement, et même moi, ça m'a fait... J'aime dans tous les cas trop vous rencontrer, vous faire des surprises, mais voir que là, vraiment, ça lui a égayé sa journée. Elle était avec sa maman aussi, elles étaient toutes les deux trop, trop choues. Et on est resté 2-3 heures après à parler, et vraiment, c'est un moment qui m'a touchée. Je me suis dit « c'est hyper important de donner du temps aux autres, quoi. » Et si... Moi, pour moi, c'est 2 heures de ma journée, mais après, elle m'envoyait des messages, elle me disait merci beaucoup et tout. C'était trop bien, franchement, ça m'a fait trop plaisir ce
Emma, si tu nous écoutes.
Emma, petit coucou à toi. Je ne sais pas si elle nous écoute, j'enverrai un message. Je
ouais, dis-lui.
Écoutez ce petit passage. Et c'est à partir de quel moment que tu as vu que l'association elle prenait une ampleur? Parce que là, vous passez dans pas mal de médias, vous travaillez avec plusieurs créateurs de contenu. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, c'est avec Paola quand ouais. on parlait. Ça fait longtemps qu'elle est dans l'asso.
Ça fait depuis 2018.
Paola, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, c'est une créatrice de contenu aussi. Il y a des personnalités. Enfin, comment est-ce que vous êtes arrivée à ce point-là?
Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que je pense qu'on a toujours... On n'a jamais cherché ce point-là. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est toujours dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire encore mieux. Et donc, d'une certaine façon, c'est chercher ce point-là, mais c'est chercher ce point-là en partant de ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait. Et ça, je pense que ça a été super important, tu vois, de se dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les bénévoles qui s'engagent chez nous, ils soient bien accompagnés, qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature et que ce ne soit pas... Évidemment, c'est difficile, mais que ce ne soit pas hyper violent et qu'ils ne soient pas du tout accompagnés. Comment est-ce que les jeunes qu'on accompagne, on peut les accompagner au mieux et toujours proposer des nouveaux programmes pour les aider, parce qu'on a une douzaine de programmes en tout chez AIDA qui existent aujourd'hui. Et ça, je pense que ça a été la première chose. La deuxième... C'est que, en fait, l'histoire, et Paola, tu t'en parles, elle a aussi changé la trajectoire d'AIDA. C'est-à-dire que quand elle s'est engagée avec nous au départ, elle avait 14 ans, elle a posté sur les réseaux sociaux un message qui disait j'arrive pas à m'engager dans une asso, je me fais recal partout, est-ce que vous en connaissez? Et il y a plein de jeunes qui lui ont répondu la seule qui pourra te prendre quand t'as moins de 18 ans, c'est AIDA. Et notamment plein de jeunes qu'on avait accompagnés à l'hôpital qui avaient répondu ça, donc c'était assez ouf. Et donc Paola, elle est arrivée chez nous et c'est vrai que, t'imagines, elle a, je sais plus combien elle avait à cette époque-là, peut-être 500, 600 000 personnes qui la suivaient. T'as quelqu'un qui raconte son engagement en tant que bénévole, forcément, ça donne envie à plein de gens de nous rejoindre. Et donc ça, je pense que ça a été un premier tournant. Parce que quand Paola a fait son premier poste, on a peut-être eu genre 2000 demandes de bénévolat.
Ah ouais, le pouvoir des réseaux, c'est fou. Hein.
Donc c'est incroyable. Et donc ça a vraiment été un premier changement, mais parce que c'était aussi très nouveau. C'était encore un tout petit peu avant les marches pour le climat, tout ça. C'était vraiment tout nouveau, les jeunes qui s'engagent. C'était pas du tout l'époque où on disait que les jeunes étaient engagés. Au contraire, moi, quand j'ai commencé, il y avait un magazine qui avait titré « La génération canapé ». Enfin, tu vois, c'était vraiment l'époque... Après, on a eu le droit à plein d'autres trucs, tu vois. Mais à cette époque-là, c'était vraiment pas du tout naturel d'associer jeunesse et engagement. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. On dit que c'est une génération engagée, etc. Je pense que le premier tournant, ça a été ça. Et puis après, c'est vraiment une histoire de rencontre, tu vois. Benjamin Pavard, qui est notre parrain, l'histoire derrière ça, c'est un week-end Highway to Health. C'était pendant le match France-Argentine. Et en fait, on a tous regardé le match où il a marqué son but, qui a été le tournant de la Coupe du Monde. Et en fait, on a un patient au premier rang qui s'appelle Jordi, qui était en fauteuil et qui, quand il a marqué son but, s'est littéralement levé de son fauteuil à la force des bras. 10 secondes, enfin même pas 5 secondes. Mais on a appelé ça le miracle Pavard en rigolant avec les soignants qui étaient à notre week-end. Et en fait, on a envoyé la vidéo à Benjamin en lui disant « voilà ce que tu provoques chez nous. Est-ce que tu accepterais d'être notre parrain ?» Et en fait, il a répondu tout de suite. Alors déjà, la première chose qu'il a dit, mais à quoi je vous servirais en mode humilité, je suis rien par rapport à ce que vous faites au quotidien. Et ensuite, c'est aussi une super cool histoire parce qu'il a commencé en 2018. Et il a continué à s'engager avec nous après tout ça. Donc, je pense que 2018, ça a été une grosse année de tournant pour nous. Et puis, à chaque fois, c'est une histoire de rencontre. Tu vois, nous, on t'a contacté hyper spontanément sur les réseaux sociaux parce qu'on avait plein de bénévoles qui disaient qu'ils s'identifiaient vachement dans ce que tu faisais et que ça les plairait de ouf que tu puisses t'engager avec nous. On avait aussi envie d'ouvrir une antenne à Nantes et à Angers. Donc, on s'est dit que t'étais la meilleure personne pour ouvrir ça et créer ça avec nous. Et ça a été un coup de cœur tout de suite. Enfin, on a les mêmes valeurs. Tu t'es engagée direct sur le terrain. Enfin, t'as fait des dingueries pour AIDA quand même. On en parlera.
Vous allez voir, j'ai inondé ma maison de cadeaux. donc c'est comme ça en fait. C'est des messages, des trucs. Et dans tous les cas, si tu contactes des gens qui partagent les mêmes valeurs, tu...
Ouais.
Enfin, peu importe la notoriété, tu vois, Benjamin, tu peux dire, ouais, il est hyper connu, enfin machin. Peu importe, je pense, la notoriété, le nombre d'abonnés ou la position et tout. Si les valeurs et si le but de tout ça est commun vers les deux personnes, c'est ça en fait, c'est s'entraider et c'est...
C'est ça, et c'est vraiment une histoire de rencontre, tu vois, et ce que je trouve trop cool chez AIDA, je me le disais hier parce que je discutais avec des potes du fait que, tu vois, c'était une période difficile pour le secteur associatif en ce moment, c'est l'inflation, on n'a jamais eu autant de demandes, c'est un peu galère, mais en fait c'est fou parce qu'à aucun moment on s'est senti seul. On s'est toujours senti hyper soutenu Parce que, en fait, à partir du moment où des gens sont remontés sur le bateau Aïda, ils sont restés sur le bateau. Et ça, je trouve ça trop cool parce que du coup, on avance tous ensemble. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on a aussi des idées pour améliorer les choses.
Du coup, on en parlait tout à l'heure. Cette fin d'année, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Tout le monde est très content. Et vous menez une opération depuis 7 ans.
7 ans, oui. Exactement, bonne mémoire.
Bonne mémoire, qui s'appelle Noël à l'hôpital. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Noël à l'hôpital, c'est une opération qui a été créée par Aïda. Et en gros, vous allez pouvoir offrir des cadeaux aux jeunes à l'hôpital. Si vous nous écoutez et que vous avez envie de faire un petit don pour cette fin d'année, en gros, le but, c'est que vous êtes allé auprès des jeunes, vous leur avez demandé qu'est-ce qu'ils veulent à Noël. Et vous avez mis tout ça en ligne sur un site. Et nous, en tant que particuliers, on peut aller sur le site noelalhopital.fr et on peut offrir un cadeau à un jeune. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les profils. Tu as des casques, des maillots de foot, des kits de dessin. Tu as vraiment plein de trucs et c'est vraiment bien parce que tu vois en fait où va ton argent et tu vois aussi qui a commandé ça, quel type de profil ça va être. Franchement, c'est hyper cool. Et ouais, c'était important pour vous de créer comme ça une opération pour les fêtes de fin d'année.
Ouais, carrément. Bon, déjà, tu connais hyper bien l'opération Noël à
l'hôpital. Je suis rodée, c'est bon.
On sent que ça fait quoi, 4 ans ?
Ça fait 4 ans, ouais.
4 ans que t'es engagée avec nous sur cette opération. On voulait vraiment, il y a eu plein de gens qui nous disaient comment est-ce qu'on peut vous aider en fin d'année. On a hyper envie de pouvoir vous soutenir. On n'a pas forcément le temps d'être bénévole, de donner notre temps dans les hôpitaux. Mais par contre, on a très envie de vous soutenir. Et la troisième mission d'Aïda, c'est vraiment de développer le pouvoir d'agir des jeunes. Et développer le pouvoir d'agir des jeunes pour la santé en particulier. Et donc, on s'est dit, on va créer ce site noelalhopital.fr avec deux critères. Un, on veut que ce soit des cadeaux qui soient personnalisés. Donc, on envoie des catalogues de cadeaux aux hôpitaux et les soignants nous font un retour et ils font en fait une commande de cadeaux. C'est 70 hôpitaux qui participent un peu partout en France. Donc, ça, c'est la première chose. Et on voulait des cadeaux qui soient utiles. C'est-à-dire que, en fait, les jeunes qu'on accompagne, c'est pas des enfants, c'est pas des adultes, c'est des adolescents et des jeunes adultes. Mmh. Donc, c'est cette tranche d'âge de transition. Et on voulait vraiment que les cadeaux, ça corresponde un peu à ce qu'on peut attendre à cet âge-là. Donc, tu as bien sûr des cadeaux matériels. Je veux une enceinte, je veux un casque, je veux des livres, je veux une liseuse. Enfin, voilà, il peut y avoir pas mal de choses. Mais aussi des cadeaux un peu plus expérientiels. Donc, je veux financer une partie de mon permis de conduire, je veux passer une journée à la mer, je veux prendre un cours d'anglais. Voilà, l'idée, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et que les jeunes puissent vraiment choisir le cadeau qui correspond le mieux à leurs besoins, à leurs attentes. Et donc, on les a tous compilés sur noelalhopital.fr. Et ce qui est assez ouf avec cette opération, parce que l'objectif, c'est 10 000 cadeaux, c'est qu'il y a plein de gens qui participent avec des budgets hyper différents. T'as des entreprises qui achètent plein de cadeaux, mais t'as aussi, et je pense que c'est ce qui nous touche le plus chez Aïda pendant cette période, des gens qui contribuent à hauteur de ce qu'ils peuvent. Donc t'as, là, la semaine dernière, on a plein d'étudiants qui ont pris leur téléphone au même moment en cours et qui ont tous donné 1 €. Et en fait, ils étaient, je crois qu'ils l'ont fait tous en même temps, ils étaient 200 dans l'amphi, du coup, ça a fait 200 €.
C'est énorme.
Avec 1 € chacun, donc c'est incroyable. Mais vraiment, l'idée, c'est que chacun puisse donner et contribuer à son échelle sur noelalhopital.fr en choisissant le cadeau qui correspond le plus et qu'après, la somme de tout ça, ça atteigne 10 000 cadeaux le 25 décembre.
Et là, on est à combien? Elle a le compteur avec elle.
On va regarder.
Depuis tout à l'heure.
On va regarder en direct, mais ça, c'est une addiction pour toute l'équipe.
Attendez, je vous dis la date aujourd'hui parce que le podcast va sortir dans 2 semaines. On est le 22 novembre. Là.
On est le 22 novembre et on met à 1347.
Et ça a été lancé ?
Ça a été lancé il y a 10 jours.
Ah ouais ?
Ouais, non, ça
donc
monte.
On est bien là.
Ça monte bien, on est bien. Et ce matin, on était à 1298. Donc je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça monte pas mal.
C'est trop bien, en tout cas.
Sachant qu'il est 11h au moment où nous enregistrons cette vidéo.
Il y a toute la journée. Et ça s'arrête du coup le 24 décembre, en fait.
Ça s'arrête le 25 décembre pour les jeunes. Et on a aussi la possibilité d'offrir des cadeaux aux soignants cette année. Et donc, offrir un bon pour une séance de méditation, par exemple. Et ça s'arrête le 31 décembre.
OK. Et pour la petite anecdote, je me souviens que la première fois où j'ai participé à Noël à l'hôpital, j'ai partagé sur mes réseaux, c'était trop bien. J'ai fait vraiment de la propagande dans ma famille. Je leur ai envoyé vraiment sur le groupe WhatsApp famille. Je leur ai dit « Offrez tous des cadeaux, allez sur le site et tout. » Vraiment la folle, genre, ils n'en pouvaient plus. Et du coup, j'ai partagé sur mes réseaux, c'était trop bien et tout. Et on a décidé que j'allais faire la remise du coup à l'hôpital d'Angers, qui est ma ville. Et donc, j'ai reçu... je pense 10 jours avant Noël, 2 énormes cartons, mais vraiment des cartons qui font la taille d'un humain, remplis de cadeaux. chez mes parents. Et donc vraiment, pendant 10 jours, il y avait 2 big cartons remplis de cadeaux dans mon entrée. Mes parents, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Zoé? Et je suis allée les offrir, les amener à l'hôpital, les offrir aux soignants, etc. Et qui allait ensuite les offrir aux jeunes. Et c'était hyper touchant d'arriver. Et c'est vrai que moi, j'ai pas tant l'habitude d'aller dans les hôpitaux et de vraiment voir comment ça se passe. Et du coup, genre, c'était hyper touchant. Les soignantes, elles étaient trop touchées par le geste. On avait plein de cadeaux. Je pense qu'il y avait au moins 200 cadeaux. Et c'était trop cool. Franchement, c'est un trop bon souvenir que j'ai. Et peut-être, papa et maman, préparez-vous à avoir d'autres cartons, quoi.
On vous aime, papa et maman de Zoé.
Merci.
Merci.
Mais non, mais en vrai, c'est trop touchant. Et tu vois vraiment, je faisais mes stories. Je voyais vraiment, en fait, la consécration du truc. Et ouais, même après, moi, je pouvais partager sur mes réseaux. Mes abonnés voyaient où est-ce que ça en était. Donc, non, franchement, c'est hyper touchant. Et c'est une belle initiative, en tout cas.
Merci, merci d'en parler. Et puis, merci à tous pour votre soutien. Je sais que parmi vous, il y en a forcément qui contribuent déjà à l'opération Noël à l'hôpital. Donc, merci de nous suivre depuis aussi longtemps et de nous soutenir.
Ouais, et comme on dit, il n'y a pas de petits dons. Même 1 euro, c'est déjà beaucoup. Parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, au final, c'est énorme. Donc, si jamais vous avez envie de donner, vous pouvez aller sur le site de noelalhopital.fr. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le podcast nous raconter l'histoire de l'association et ce que vous faites au quotidien. C'est trop bien. Merci. Je pense que tout le monde vous remercie et remercie tous les bénévoles, tous les gens qui travaillent tous les jours et qui permettent aux jeunes à l'hôpital d'avoir un quotidien normal et voilà, et se sentir entourée.
Merci à toi aussi, surtout Zoé, parce que ce que tu fais pour nous soutenir depuis 4 ans, c'est ouf. Et en fait, il y a une partie de toi dans Aïda, donc, donc vraiment merci pour tout.
Je vais pleurer. Et merci à vous qui nous écoutez, j'espère que le podcast vous aura plu. Si jamais vous voulez plus d'infos sur Aïda, je vous laisse aller voir sur le site internet. Et si vous voulez participer à l'opération Noël à l'hôpital, c'est sur le site noelalhopital.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cordialement, Zoé.
Cordialement, Zoé.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.